Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment dire oui? Comment dire oui sans ombre, sans retenue, sans ambiguïté? Les oui francs, nets et solaires sont rares. Et surtout, ils n'excluent pas le non. Dire oui pour mieux dire non, consentir pour mieux se révolter, c'est une façon de décrire la philosophie d'Albert Camus qui va nous accompagner aujourd'hui. Elle est en route sur les chemins de la philosophie. Consentez-vous à écouter la voix de Maria Cazares, qui vécut une grande histoire d'amour avec Camus. Je prends votre silence pour un oui. Allons-y.
Dans la manière qu'il avait de penser, pour lui, l'acteur était une manière de représenter cette vie, cette conception de la vie qu'il avait, c'est-à-dire le pari, le jeu avec la vie. Le pari, et puis aller jusqu'au bout des choses, même si on sait que ces choses-là ne peuvent pas aboutir complètement. Voilà, le côté extrêmement éphémère et engagé, complètement engagé. Et ne jamais vouloir être, si vous voulez, faussement fidèle aussi à son engagement. C'est-à-dire choisir sans cesse une remise en question de cet engagement et une remise en vérité. Et pour cela, prendre un fil raide, marcher vraiment comme un funambule sur un fil raide, en faisant attention de ne pas succomber à la tentation de tomber d'un côté d'être assis ou de tomber de l'autre d'être assis. Et Camus était presque par moments pathétique, par moments c'était formidable, puis il y avait des moments où c'était assez pathétique, enfin c'était très 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 très, très touchant.
Bonjour Marilyn Maezo.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous enseignez la philosophie au lycée, en classe terminale, et c'est vous qui allez nous accompagner pour parler du consentement chez Camus. C'est le dernier temps de notre série d'émissions sur le consentement. D'abord, on vient de commencer avec la voix de Maria Cazares. Les éditions Gallimard viennent de publier la correspondance magnifique entre Camus et Cazares. C'est plus de 600 pages, un trésor vertigineux, une correspondance parfois torride, parfois beaucoup plus froide. C'est émouvant d'entendre sa voix, non?
Très émouvant, oui. Personnellement, j'ai pas encore commencé à la lire. Je préfère avoir le temps pour pouvoir la savourer. Ce qui est beau aussi d'entendre, dans le fait d'entendre sa voix, c'est de savoir qu'en elle se rassemblaient les deux des plus grands amours, en fait, de Albert Camus, à savoir les femmes.
Ouais.
Bien les femmes au pluriel et le théâtre. Et Maria Cazares est probablement l'une des raisons pour lesquelles elle est une des personnes, je pense, qui ont le mieux connu Camus sous toutes ses dimensions. C'est parce que précisément, elle l'a connu à travers le théâtre.
Et elle comprend que d'ailleurs la notion même de comédien pour Camus est très importante. Elle dit le comédien, c'est presque un défi lancé au monde.
Oui, et puis en l'occurrence c'est un défi lancé au monde, et puis c'est aussi la possibilité offerte à quelqu'un de vivre de multiples vies. Comme Camus était un jouisseur et un amoureux de la vie, par définition la comédie c'est l'art et la manière de créer une forme d'éternité par la démultiplication des destins possibles.
Le consentement, dire oui, alors toute la question de savoir à quoi dit-on oui, chez Camus le oui est très important, on le trouve même comme tel, opposé au non ou associé au non, on verra que les deux s'opposent pas forcément. On peut commencer, comme on a entendu la chanson de Neil Young, There is a world, il y a un monde. On peut dire que chez Camus, le consentement, c'est d'abord un consentement au monde, c'est dire oui au monde qui est devant moi.
Le oui chez Camus, c'est d'abord effectivement un consentement au monde. Et pour essayer de caractériser ce consentement, il faut dire que c'est à la fois une évidence et un travail. Une évidence et une lutte, disons. Parce que si on s'intéresse notamment aux textes, disons, textes de jeunesse, l'envers et l'endroit, noces, le oui s'impose comme une évidence. Hein, la jouissance du monde, la fusion avec le monde, avec la nature, les descriptions des paysages, notamment de l'Algérie, sont représentatives de cette évidence. En même temps, dans l'envers et l'endroit, déjà, on commence à avoir la dimension du non, la dimension de la difficulté, la dimension de l'ombre, justement, l'envers et l'endroit, l'ombre face à la lumière, disons la révolte face au consentement. Mais de manière générale, quand même, ce qui domine dans les œuvres de jeunesse, c'est vraiment le oui comme évidence. C'est à partir du moment où on s'intéresse notamment aux œuvres où apparaissent le thème de l'absurde, que là, on commence à comprendre en quoi ce qui apparaissait jusqu'alors comme une évidence peut devenir une lutte, notamment à travers la figure de Sisyphe. Parce que Sisyphe, justement, c'est celui qui doit lutter pour consentir. C'est-à-dire, c'est celui qui, quand on dit qu'il faut l'imaginer heureux, c'est celui qui, justement, est dans la jouissance du monde, mais c'est une jouissance qui est un travail perpétuel et a toujours recommencé, parce que le rocher, une fois arrivé au sommet, justement, permet cette jouissance, et puis il retombe, il faut recommencer à lutter contre son propre désir, justement, de négation.
Alors, pour rappel, Sisyphe est celui qui est condamné à pousser un rocher en haut d'une colline et à recommencer pour l'éternité. Oui. Camus, dans Le mythe de Sisyphe, prononce cette phrase restée célèbre, il faut imaginer Sisyphe heureux, qui est en fait une forme d'éthique qu'il dessine. Il faut imaginer que même dans la répétition éternelle du même geste, nous pouvons trouver un bonheur, ce qui paraît complètement fou.
Oui, surtout c'est un travail, il faut. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi.
Il faut imaginer.
Ça ne va pas de soi. En l'occurrence, vous avez rappelé effectivement l'idée de répétition et l'idée d'éternel retour du même, qui est une idée nietzschéenne. Camus étant un grand lecteur de Nietzsche et un fin nietzschéen, en fait, par beaucoup d'aspects, pas intégralement, on le verra un peu plus tard. Et le principe, justement, de l'amor fati, c'est que ça apparaît presque comme une forme de démence, en fait.
L'amor fati, c'est l'amour du destin.
Voilà, la capacité à désirer que les choses et les événements se reproduisent à l'identique, les revivre à l'identique, en fait. Avoir la capacité de revivre les choses à l'identique. C'est d'ailleurs un motif qui apparaît à la fin de l'étranger. On a un motif extrêmement nietzschéen avec Meursault, justement, qui se dit prêt à recommencer, à revivre tout à partir de zéro. Et en l'occurrence, c'est un motif dont la difficulté apparaît d'autant plus nettement, justement, quand on connaît un peu Nietzsche, et Camus le connaissait très bien, justement, c'est pour ça que je pense que le parallèle est intéressant, qui est que Nietzsche lui-même n'a pas toujours été fidèle, en fait, à ce motif de l'amor fati, à l'idée qu'il fallait vouloir que tout, sans exception, revienne à l'identique, puisqu'il y avait des dimensions, justement, disons, de négation totale, absolue, chez Nietzsche, notamment lorsqu'il parle du christianisme, des chrétiens, etc. Donc cette idée que la volonté de consentir à ce qui est et de vouloir que tout revienne à l'identique est une lutte, on la retrouve y compris à l'origine, à savoir dans le motif nietzschéen. Et on le retrouvera chez Camus, notamment dans la description qu'il fait de son époque et de ce qu'on peut appeler l'homme absurde. C'est-à-dire l'homme absurde, le prototype de lui, ses contemporains, etc. Dans un extrait, si je ne m'abuse, des carnets, Camus décrit justement cet homme absurde en disant il était en révolte contre tout. Justement, le thème de la révolte apparaît à ce moment-là. En révolte contre le style, en révolte contre la morale, en révolte contre tout ce qui était affirmé de manière péremptoire et dogmatique. Il ne connaissait plus de R machin ou de Sir machin ou de Monsieur machin. Si vous voulez, il y a l'idée que il était dans la négation pure et qu'à partir de là, il a fallu justement reconstruire ce qui jusqu'à présent apparaissait comme une évidence, à savoir l'affirmation. Donc il y a une sorte de mouvement, en fait, purement sisyphéen, où on passe de l'idée, enfin, d'évidences, qui pour le coup ne sont pas les évidences de l'amour du monde, mais les évidences de la société, de la morale, des règles, que ce soit les règles du style, les règles en général. Et à partir de là, on essaie de reconstruire justement une forme d'affirmation à partir de la négation de toutes ces règles. Donc en fait, je dirais que le mouvement de Sisyphe, c'est un mouvement qui se passe à plusieurs niveaux. Ça peut être un mouvement qui va à l'échelle individuelle à l'échelle par exemple de la vie de Camus, du rapport au monde, du rapport de fusion au monde, de l'affirmation face au monde, à l'absurde, puis de nouveau à l'affirmation au monde. Et en même temps, au sein de la société, c'est un mouvement qui peut aller des évidences sociales, culturelles, vers le nihilisme et vers de nouveau la reconstruction d'un monde social, d'un monde commun possible.
Alors, on va déplier ensemble tous les éléments que vous venez de vous donner et qui sont très riches et qui permettent de comprendre pratiquement tout le parcours de Camus. revenons au début. Si le monde, et c'est le constat de Camus, le monde est absurde. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous faire plaisir. Notre vie ne correspond pas à un sens qui serait prédonné. Le monde est même nous est indifférent, dit-il. Le thème et le terme de l'indifférence sont très importants pour Camus. Pourquoi le oui est-il premier? Vous avez dit, il dit d'abord oui, et ensuite il y a un non qui vient. Mais comment dire oui à ce qui est absurde? On a plutôt envie de le condamner, non?
C'est parce qu'en fait, l'absurde, si j'ose dire, est un événement. L'absurde lui-même n'est pas évident. C'est-à-dire que on peut penser, par exemple, pour le matérialiser, si vous me permettez une petite infidélité à Camus, on peut penser à la scène de la nausée de Sartre, où Roquentin, le personnage principal, contemple une racine de marronnier, il me semble, je me trompe pas d'arbre, une racine de marronnier, et à ce moment-là, prend conscience de ce que Sartre appelle la nausée, à savoir la prise de conscience de l'absurdité, dirait Camus, de l'existence, de sa contingence, dirait Sartre. Donc c'est vraiment un événement, en fait. Il se passe quelque chose. À un moment, ça arrive à quelqu'un. C'est quelque chose.
On prend conscience de l'absurdité du monde. On ne naît pas avec cette conscience-là.
Effectivement.
C'est un événement.
Tout à fait. Donc c'est une première réponse déjà. L'absurde, ça nous tombe dessus. C'est pas quelque chose qui arrive spontanément ou qui est là de toute éternité. Donc j'ai envie de dire le consentement, en fait, il est premier tout simplement parce que on vient au monde sans se poser de questions. Le questionnement arrive avec l'expérience, avec le rapport aux autres, etc. Mais on vient au monde comme sous la forme de l'évidence, j'ai envie de dire. Donc il y a peut-être une forme de je dirais qu'il y a plusieurs naissances au monde. En fait, il y a la naissance au sens propre du terme, et puis il y a plusieurs naissances ou renaissances qui arrivent au fur et à mesure des expériences qui se produisent, notamment celle de l'absurde. Donc, je pense que Camus, en fait, la raison pour laquelle il a commencé par l'affirmation, ou par le consentement, c'est parce que justement, il a voulu commencer par le commencement, qui est le premier rapport spontané qu'on a au monde. Et notamment au monde dans lequel il vivait, à savoir l'Algérie, la beauté de l'Algérie de son enfance. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant. C'est une hypothèse que je propose, mais ça me paraît assez cohérent. Je pense qu'il y a une forme de contingence dans la manière dont Camus lui-même a élaboré justement son cheminement du consentement à l'absurde, à la révolte, etc. Il est né en Algérie. Mmh. Je pense que si on avait eu un Camus né en pleine guerre dans un pays en ruine, il aurait probablement pas commencé par le consentement. Donc je pense qu'il y a aussi une partie de contingence.
Il en est conscient d'ailleurs.
Absolument.
Son enfance baignée de soleil, certes absolument. Pauvre et peut-être misérable par certains aspects, était par ailleurs absolument solaire et insouciante.
Oui, mais d'ailleurs, la pauvreté de son enfance, c'est pas quelque chose qui aurait pu apporter un bémol au consentement, au contraire. Ça, c'est quelque chose sur lequel il insiste énormément. Le fait d'être dans le dénuement, puisqu'il était quand même très pauvre, ça lui a permis justement de faire l'apprentissage du désespoir, mais pas du désespoir qui serait finalement un sentiment négatif, mais du sevrage par rapport à l'espoir, qui est pour Camus un sentiment négatif. Parce que justement, à partir du moment où on a la capacité, enfin on est dans le dénuement, on a la capacité à se contenter de peu, de ce qu'on a, et donc à apprendre à aimer le monde tel qu'il est, à aimer sa condition telle qu'elle est, en fait. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, la pauvreté de son enfance, ça n'a pas du tout été un facteur qui a pu diminuer son consentement au monde, mais au contraire quelque chose qui l'a accentué.
Pour continuer à comprendre ce qu'il entend par consentement, on peut faire une première distinction conceptuelle avant d'entendre un texte. On pourrait imaginer que parfois consentir, on peut dire oui un peu contraint par quelque chose. Oui, le consentement absolu est très rare. Camus insiste bien sur le fait que le consentement, ce n'est pas la résignation. Il distingue les deux et cette distinction est d'ailleurs décisive chez lui. La résignation a quelque chose de peut-être d'amer, de forcé, quand le oui, le consentement, au contraire, est quelque chose qui engage toute la volonté.
Absolument. Le oui chez Camus est d'abord un oui à la vie. Et il dit également que vivre, c'est ne pas se résigner. Donc, par définition, les deux s'opposent. J'ai envie de dire que si on doit effectivement, disons, conceptualiser cette distinction, le consentement chez Camus est lié, comme je viens de le dire, à la capacité justement à renoncer à l'espoir.
Ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que l'espoir est du côté de la résignation? Pourquoi est-ce qu'il tourne le dos à la vie?
En fait, la résignation, c'est une forme de défaitisme, en fait. La résignation, c'est le... faut essayer de poser les choses, en fait, pour visualiser. La résignation, c'est le fait de se dire... ça aurait pu être comme ça, ça ne le sera pas, si seulement ça avait été comme ça. La résignation, c'est, j'ai envie de dire, c'est une passion négative, hein, pour parler un peu en termes spinozistes. C'est une passion négative, voilà. C'est à la fois, effectivement, l'abandon, mais c'est pas un abandon positif, un abandon jouissif, c'est un abandon qui n'est pas sans tristesse, en fait. Alors que le consentement, c'est pas du tout un état d'esprit qui est fondé sur le désespoir, mais au sens d'un désespoir qui est la perte ou le regret d'un espoir perdu. C'est au contraire la capacité à renoncer à l'espoir, ou plutôt, pas utiliser le verbe, la capacité à faire le deuil de l'espoir.
Mais alors pourquoi l'espoir est-il du côté de la résignation? Quand on espère, on a envie que les choses arrivent.
Oui, mais en fait, quand on espère, on est du côté de la résignation pour Camus, parce que on est dans l'attente d'un arrière-monde, pour parler de nouveau en termes nietzschéen. C'est-à-dire, on est dans l'attente de quelque chose qui serait toujours mieux que ce qu'on a.
D'autre chose que ce qui est.
Exactement. Et de ce point de vue-là, c'est un sentiment qui est délétère, pour une raison très simple, c'est que c'est un sentiment qui est totalement indexé à ce qu'on peut appeler un désir objectivant. Alors, pour pas trop jargonner, qu'est-ce qu'un désir objectivant? Parce qu'il y a plusieurs formes de désir. Un désir objectivant, c'est un désir justement qui se focalise sur des objets précis. Or, un désir qui se focalise sur des objets précis qu'on souhaite acquérir, par principe, il renaît de ses cendres. Dès qu'on a acquis l'objet, il va se reporter sur autre chose. Il y aura toujours mieux. Il y aura toujours une femme plus belle. Il y aura toujours une maison plus grande. Il y aura toujours un destin meilleur, un meilleur métier, etc. Donc, de ce point de vue-là, le principe du renoncement, c'est qu'à partir du moment où on est dans cette logique de désir infini, dès lors qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas acquérir cette autre chose qui est meilleure, automatiquement, on va être dans le défaitisme. Je me contenterai de ce que j'ai, mais je vois comme une sorte d'horizon qui me taraude et qui me presque se moque de moi, qui me taquine et que je ne pourrai jamais atteindre. Alors que finalement, le consentement, c'est au contraire une forme de désir qui est la capacité, qui est un désir, je dirais, spinoziste, une capacité à jouir de ce qu'on a, à vouloir vivre, à vouloir persévérer dans l'être et à vouloir décupler ce qu'on a, en fait, sans se disperser sur des objets particuliers. Et de ce point de vue-là, justement, c'est un sentiment qui est parfaitement distinct de l'espoir, parce que c'est la capacité à jouir de ce qu'on a, quel que soit, en l'occurrence, ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est pas un sentiment qui dépend, en l'occurrence, de quelque chose de hasardeux, de contingent, ma situation. C'est un sentiment qui est une force intérieure et qui dépend intégralement de soi, en fait.
Mais ça, est-ce qu'elle dépend vraiment de soi? Est-ce le résultat d'un choix ou est-ce un trait de caractère? C'est Camus lui-même qui dit qu'il faut une rare vocation pour être un jouisseur. On choisit pas une vocation.
Ah oui, c'est un trait de caractère. Mais en l'occurrence, tout dépend de ce qu'on appelle choix aussi. Si on est dans une logique sartrienne, automatiquement, on comprendra pas ce que Camus essaie de dire. Par choix, j'entends plus la capacité, plus que choix, en fait, le terme est peut-être mal choisi, travail sur soi. C'est vraiment une image sisyphéenne que j'ai en tête quand je parle de choix. En l'occurrence, c'est un travail sur soi, c'est une lutte, en fait, contre soi-même. Parce que quand on pense à l'image de Sisyphe qu'on vient d'évoquer, lorsque Camus l'évoque lui-même en parlant de la lutte pour atteindre les sommets, il dit qu'elle suffit à remplir un cœur d'homme. En réalité, c'est une double lutte. C'est à la fois une lutte contre le monde, la lutte qui est incarné par Sisyphe poussant son rocher, mais c'est aussi une lutte intérieure, en fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut une rare vocation pour être un jouisseur, il y a à la fois, je pense, effectivement, une dimension de caractère, quelque chose qui fait que certains le seront plus spontanément que d'autres, mais il y a aussi la capacité, je pense, à le vouloir. La capacité à vouloir justement lutter contre sa propre tendance au désespoir ou au mauvais
ou à l'espoir.
À l'espoir, en l'occurrence, à la démesure plutôt qu'à la mesure, etc.
Donc pour consentir, il ne faut pas trop espérer, il faut aussi donc relever, accepter la lutte que nous avons à la fois contre nous-mêmes, envers nous-mêmes et parfois contre le monde quand il s'oppose à nous. Peut-être donc pour parvenir à ce oui, vous l'avez dit, le sentiment de l'absurde est un événement qui nous tombe dessus et qui fait que le oui originel se distance de nous et qu'un non va s'immiscer. Comment passe-t-on du oui au non? Comment passe-t-on du consentement à la révolte? C'est l'objet du texte de Camus qui s'intitule « L'homme révolté », dont voici un extrait tout de suite.
Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. quel est le contenu de ce nom. Il signifie, par exemple, « les choses ont trop duré ». Jusque-là, oui, au-delà, non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce nom affirme l'existence d'une frontière. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Le révolté, au sens étymologique, fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître, le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur.
Quelles sont les relations maintenant avec votre ex-frère Jean-Paul Sartre?
Ce sont d'excellentes relations, monsieur, puisque les meilleures relations sont celles où l'on ne se voit pas. Ceci dit, on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs, et peut-être aussi à l'étranger, le différent qui nous a opposés. C'était un différent surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement, selon moi, également respectables, n'est-ce pas ? Mais parfaitement opposées.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Camus qui s'explique au sujet de sa brouille avec Sartre. C'était en 1957 lors d'une conférence de presse. C'est assez amusant parce qu'on sent qu'il est absolument opposé à Sartre, qu'il en parle assez volontiers, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il soit vraiment fâché, Marilyn Maezo. Et il y a un lien avec le texte qu'on a entendu juste avant, parce que c'est à l'occasion de l'homme révolté qu'il se dispute,
non ? En l'occurrence, c'est une querelle qui a eu lieu à l'occasion de l'homme révolté. Alors, en réalité, j'ai envie de dire, c'est une querelle un petit peu en deux temps. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a une première querelle qui, cette fois, n'opposait pas Camus et Sartre, mais Camus et Merleau-Ponty. Ça remontait à l'époque de la publication d'un texte de Merleau-Ponty qui s'intitule « Humanisme et terreur ». Donc c'était en 47-48, puisque c'était un texte qui était sorti en deux fois dans les temps modernes. Et Camus était sorti de chez Boris Vian, furieux, après avoir accusé Merleau-Ponty d'avoir justifié les camps de concentration. Sartre l'avait poursuivi dans la rue, en essayant de le faire revenir. Rien à faire, Camus était parti. Donc il y avait une brouille entre Merleau-Ponty et Camus. Mais en l'occurrence, l'homme révolté, c'est quand on lit de près, qu'on connaît bien Humanisme et terreur, et qu'on a lu les carnets d'Albert Camus, on se rend compte que c'est en partie une réponse à Humanisme et terreur de Merleau-Ponty. Il y a des passages des carnets d'Albert Camus qui sont contemporains du moment d'écriture de l'homme révolté, qu'il a commencé vraiment à rédiger activement à partir de 45 en fait, hein, publié en 51, donc ça a commencé assez tôt, où il cite Merleau-Ponty. Il cite Humanisme et terreur, donc on se rend compte que c'est une réponse. Donc, j'ai envie de dire, Camus a pris le temps pour vraiment, entre guillemets, régler ses comptes de manière philosophique avec Merleau-Ponty, sauf qu'il l'a fait par Sartre et Janson interposés. En réalité, la querelle au sujet de laquelle Camus commente ici, c'est une querelle qui n'a pas eu lieu uniquement entre lui et Sartre, mais entre lui et Janson. Et Sartre, Janson, qui était un des collaborateurs, le principal collaborateur de Sartre au temps moderne, pour faire simple, Janson, c'est celui qui a recensé l'homme révolté d'Albert Camus. Alors, je viens de relire récemment un entretien que Sartre avait accordé à l'un de ses biographes, où il revient là-dessus, où justement il explique que il est arrivé un jour en conférence de presse, enfin, en conférence de presse, non, mais en, disons, réunion au temps moderne, a demandé qui a lu l'homme révolté. Personne l'avait lu. Du coup, il a demandé à Janson d'en faire une recension. On ne sait même pas si vraiment les deux l'avaient vraiment lu, ou juste en transversal. Et Janson a fait une recension assassine qui rappelait un petit peu celle qu'il avait faite de la peste. Et Camus l'a très mal pris. Il l'a pris personnellement. Il y avait de quoi le prendre personnellement parce que c'était une recension qui portait plus parfois sur la personne que sur le texte. Donc c'était plus de l'attaque ad personam que vraiment de la critique des thèses. Et à partir de là, Camus a tellement pris la mouche qu'il a même pas pris la peine de répondre à Janson. Il a répondu directement au directeur des temps modernes. Une lettre ouverte au directeur des temps modernes.
Une réponse géniale d'ailleurs. Hein,
que Sartre trouve nullissime, oui. Bien sûr. Parce que ce que je trouve merveilleux, c'est là qu'on voit quand même la différence de caractère entre les deux. La manière dont Camus dit « oui, il ne faut pas exagérer la brouille », Sartre, quand il en parle dans les années 70, donc dans cette série d'entretiens qu'il accorde pour sa biographie, il dit qu'en fait...
Donc plus de 15 ans après.
Voilà, il dit « la réponse que Camus a faite, elle était nulle ». La seule erreur de Camus, ça a été de répondre au directeur de temps moderne et de même pas daigner répondre à Janson. Mais sinon, le contenu de la réponse, essayer quand même globalement de ramener Janson sur le texte plutôt que sur sa personne.
Mais c'est ce qu'on va faire justement parce que le texte qu'on a entendu n'est pas étranger aux raisons qui peuvent expliquer d'ailleurs cette rupture-là, puisque c'est quand Sartre dans La Nausée vit l'irruption du monde comme un sujet justement de la maladie, à nausée, toute l'œuvre de Camus tend au contraire à inscrire le sujet dans le monde. On a une espèce de consentement qui, pour le coup, n'est pas vécu comme tel par Sartre.
Absolument. Je dirais que pour Sartre, dans la manière qu'il a de comprendre, je dirais de manière un peu de mauvaise foi, pour le retourner un de ses concepts contre lui-même, de comprendre Camus, il comprend le consentement camusien, je dirais, comme bourgeois. La révolte camusienne, c'est une révolte, en fait, de bourgeois, au sens où c'est vraiment la révolte de l'individu qui est tranquillement installé dans sa petite nature dorée, qui a pas les problèmes qu'a, par exemple, l'ouvrier ou l'agriculteur pauvre au Vietnam. Il a pas ce genre de problème-là. Donc, l'idée de consentir au monde, quand le monde, c'est pas quelque chose qui vous écrase et qui vous empêche de respirer, c'est beaucoup plus facile. Voilà, en gros, la manière dont Sartre le comprend. Et donc, ce qui ne pardonne pas à Camus, c'est d'avoir, si j'ose dire, phagocyté la révolte, la noble révolte, la nécessaire révolte, par un concept bourgeois.
C'est-à-dire la révolution, en fait, non ?
Voilà, la vraie révolte. C'est-à-dire qu'il a en fait, si j'ose dire, il a mis des pantoufles à la révolution, Camus, pour Sartre. Il a conceptualisé la révolte. Je reprends l'interprétation de Sartre. Attention, c'est pas du tout ce que dit Camus. Pour Sartre, la révolte, en fait, elle ne vaut que quand elle échoue. Voilà. Parce qu'au final, il faut quand même consentir.
Donc, mais justement, expliquez-nous quel est le lien entre le consentement et la révolte.
Alors, le lien entre le consentement et la révolte. En l'occurrence, comme on l'a dit tout à l'heure, consentir et se résigner, ça n'est pas la même chose. Et en l'occurrence, il y a un passage du mythe de Sisyphe qui permet de comprendre cette articulation. Plutôt que dire articulation, parce que c'est le mauvais terme, tension, c'est beaucoup plus camusien. Il n'y a pas d'articulation, j'ai mis avec des tensions. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que beaucoup de gens croient qu'ils passent en temps à se contredire. Comment on fait pour articuler la révolte et le consentement? Comment on fait pour articuler le mythe de Sisyphe et les noces? C'est contradictoire. Ben non, c'est parce que justement, c'est pas des légos, ça ne s'emboîte pas, c'est des tensions en fait. Et dans le mythe de Sisyphe, il y a un passage où Camus explique en substance, il dit « si j'étais un arbre, ou si j'étais un arbre parmi les arbres, ou un animal parmi les animaux, finalement le consentement ne poserait pas de problème parce que plutôt le problème du sens du monde ne se poserait pas. Voilà, mon problème c'est que je suis un homme et que pour un homme, contrairement à un arbre, contrairement à un animal, il y a la question du sens, j'ai besoin de sens, je suis demande de sens en fait, je passe mon temps à poser des questions, à demander pourquoi. Voilà. Et la révolte naît de là. La révolte, j'ai envie de dire, c'est vraiment la pointe par laquelle l'homme s'arrache à sa fusion avec le monde, son amour avec le monde en fait, son amour pour le monde. C'est-à-dire que effectivement, l'homme fait partie du monde, l'homme peut consentir au monde, mais il est aussi en même temps un être qui questionne, un être qui a besoin de sens. Et donc la révolte naît de là en fait. Et l'homme révolté, c'est un texte qui est extrêmement complexe, qui a été très mal compris, mais qui est très très beau. Qui commence par justement s'interroger sur ce qu'est la révolte, pour ensuite décliner les différentes figures, les différents avatars de sa corruption. Comment la révolte se trahit elle-même.
Donc la révolte naît de cet événement qu'est l'absurde en fait.
Voilà.
L'homme se révolte dès lors qu'il comprend que le monde ne fait pas sens.
Oui.
Donc d'abord consentement ou assentiment originel, puis sentiment d'absurde qui conduit à la révolte.
C'est comme une relation amoureuse, j'ai envie de dire. Puis avoir une forme de lune de miel avec le monde, et puis il y a un moment où il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire que tout allait bien, et puis il y a quelque chose qui jusqu'à présent était évident, et qui ne l'est plus du tout. Et ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est de voir comment commence l'homme révolté. On a entendu l'extrait. Il y a quelque chose de similaire, d'analogue en tout cas, dans la logique. Comme je le disais, le consentement, c'est comme une relation. On commence avec une jouissance, une identification, une fusion avec le monde. Et puis d'un seul coup, il y a comme un point d'achoppement, il y a comme on rencontre un mur en fait. Voilà. Avec la révolte, il y a quelque chose de similaire au sens où il y a « je dis oui » jusqu'au moment où je peux plus dire oui. C'est-à-dire que pour comprendre la révolte, Camus prend la figure de l'esclave. Il dit l'esclave, celui qui, non pas consent, parce qu'en l'occurrence, le terme serait mal choisi étant donné la figure quand même extrême qu'il a choisie, mais se résigne, il laisse faire. Et à un moment donné, il dit oui, 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 et là, le point de rupture est atteint. Il y a un non, en fait. Donc, j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, l'homme révolté, il refait, bien que sous d'autres modalités, le même cheminement que celui qu'on vient de voir. Il y a le consentement, et puis d'un seul coup, il y a l'absurde. Là, avec l'homme révolté, on a un esclave qui ne se pose pas de questions, justement. Sauf que c'est si j'ai envie de dire, c'est un rapport au monde qui est beaucoup plus triste, hein, parce que l'esclavage et l'enfance dorée en Algérie, c'est quand même pas la même chose. Mais voilà, on a un esclave qui se pose pas de questions, et d'un seul coup, il se pose la question. C'est-à-dire, il dit, mais pourquoi? Pourquoi je devrais le faire? Voilà. Et à partir du moment où cette question, le pourquoi, l'éternel pourquoi dont il parle dans le mythe de Sisyphe, se pose, à partir de là, la révolte devient possible. Mais justement, pour comprendre le rapport entre les deux, la tension entre les deux, Camus commence par l'évidence. Qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit non, bien sûr. C'est quelqu'un qui dit, là, stop, je me révolte, je veux que ça s'arrête. Mais en même temps...
Et là où il est très fort, c'est qu'il dit que c'est aussi un homme qui dit oui.
Un homme qui dit oui, voilà.
C'est-à-dire que la révolte n'est pas un refus catégorique de tout ce qu'il y a. Il y a un consentement.
Exactement.
Qui précède la révolte.
Bah parce qu'il faut bien avoir des raisons de se révolter.
C'est-à-dire qu'il faut bien aimer le monde un peu pour avoir envie de le changer.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tenir suffisamment à quelque chose pour avoir des raisons de se mettre en danger. En l'occurrence, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la base de n'importe quelle révolte. Pourquoi une révolte se produit, une révolte, même une révolution, à tel moment et pas à tel autre? Pourquoi on décide de se révolter à tel moment et pas à tel autre? C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, l'affirmation de quelque chose à quoi on tient est supérieur au risque qu'on prend et à notre capacité, j'ai envie de dire, à tenir à tout prix à la survie, non pas à la vie, parce que c'est quand même pas la même chose. Donc, au début de l'homme révolté, Camus explique que voilà, l'homme révolté, c'est quelqu'un qui dit non, mais c'est aussi quelqu'un qui dit oui. En l'occurrence, il consent, ou plutôt il affirme une partie de lui-même qui vaut la peine qu'on meure pour elle. C'est-à-dire, c'est un petit peu le paradoxe justement de la révolte, c'est la capacité à aimer la vie à tel point qu'on est prêt à la sacrifier. Voilà. C'est encore une fois un nouveau paradoxe de ce texte. Et à partir de là, ce que l'homme révolté comprend, c'est que sa révolte, son sentiment de révolte, qui au départ justement est un sentiment, qui est un peu démesuré, ce qui est normal, hein, c'est la colère qui prédomine, à un moment donné, pour être cohérent avec lui-même, la cohérence est aussi un concept très important chez Camus, pour être cohérent avec lui-même, a besoin de s'imposer à lui-même ses limites. C'est-à-dire que de l'esclave qui se révolte contre son maître, qui est prêt à couper des têtes, on passe à un esclave qui comprend que la raison pour laquelle il se révolte, c'est qu'il veut affirmer une certaine idée de, une certaine valeur, en l'occurrence une certaine idée de l'homme. Or, cette idée de l'homme, qui c'est qui lui a donné? Ben, c'est son maître. C'est-à-dire que de voir que le maître était libre, que le maître peut vaquer à ses occupations, que le maître peut choisir son destin, alors que lui ne peut pas, par comparaison, il comprend qu'il y a une injustice là-dedans. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qui fait que lui a ces droits-là et que moi je ne l'ai pas alors que nous sommes tous les deux des hommes? Mais donc à partir du moment où il revendique le même traitement que le maître, il ne peut pas vouloir le tuer, simplement, parce que justement ça serait à partir de là vouloir non pas avoir le même statut que lui, mais vouloir se substituer à lui. Donc non pas vouloir supprimer le rapport maître-esclave, mais vouloir substituer les rôles. Et ça, puisqu'on parlait de la querelle entre Sartre et Camus, c'est quelque chose que Sartre n'a pas vraiment compris en fait. Si vous me permettez, je voudrais qu'on fasse un parallèle justement de ce point de vue-là, entre... L'homme révolté, notamment l'extrait qu'on a entendu et la manière dont Camus l'a commenté, est la préface de Sartre au Damné de la Terre de Frantz Fanon. C'est un texte que je recommande à tout le monde. Si possible, lisez d'abord les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, parce que c'est la meilleure manière de pas comprendre les Damnés de la Terre de Frantz Fanon que de commencer par la préface de Sartre, qui a une vision quand même assez caricaturale. Mais ce texte est fondamental pour comprendre Sartre et pour comprendre cette querelle avec Camus, parce que dans ce texte, Sartre, en substance, est dans une forme de révolte, une révolution, la révolution algérienne, qui est dans la négation pure. Mais dans la négation, si j'ose dire, dans une forme de nihilisme incantatoire, c'est-à-dire que il y a des passages absolument démentiels de ce texte où il dit que abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, c'est à la fois, enfin finalement, c'est finalement abattre à la fois un opprimé et un oppresseur, reste un homme mort et un homme libre. Voilà, ça c'est le résumé de cette préface. Autrement dit, il explique comment en abattant les Européens, des Européens, c'est pas des gens particuliers, c'est des Européens parce qu'ils sont Européens, même à travers le terrorisme, donc au hasard, l'Algérien se fabrique comme homme, non plus comme homme asservi, mais comme homme à proprement parler, et il dit même un homme de meilleure qualité. Donc en fait, on a une préface qui légitime la violence sans limite, celle du terrorisme, la violence aveugle, mais au nom de l'humanisme. Ce qui est extrêmement intéressant quand on connaît justement le texte qu'il préface, et qui, en l'occurrence, Frantz Fanon, qui critique l'humanisme occidental parce que c'est un humanisme qui ne cesse de vanter l'homme et de le tuer partout où il le rencontre.
Oui, en fait, le problème de Sartre, c'est la bonne conscience du colonialiste.
Exactement,
en fait,
mais ce qui est merveilleux, c'est que là où c'est en totale contradiction avec le message du texte même qu'il préface, c'est que Fanon dénonce l'humanisme occidental en disant c'est un humanisme en fait nihiliste qui vante une idée, l'homme, mais qui tue les hommes concrets partout où il les rencontre. Or, ce que Sartre est en train de vanter dans cette préface est exactement une même logique. Au nom de l'humanisme, au nom d'un homme de meilleure qualité, donc un homme à venir finalement, on légitime le meurtre aveugle d'individus au prétexte qu'ils sont européens.
Et Camus parlera davantage d'humanité que d'humanisme d'ailleurs.
Voilà.
C'est sans doute la valeur, la fin du texte qu'on a entendu disait bien, tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur, et si valeur il y a chez Camus dans ce monde qui est composé d'indifférence et qui n'a pas de sens a priori, eh bien c'est bien celle de l'humanité. Camus choisit de donner de la valeur à l'humanité.
Exactement, c'est surtout que en fait Camus a pointé le défaut fondamental de toutes les pensées de l'histoire dialectique, qu'il appelle historisme ou historicisme dans L'homme révolté, à savoir le fait que dans ces logiques-là, dans ces systèmes-là, dans ces systèmes de pensée, la valeur est toujours un horizon. Elle est à fabriquer, elle n'existe pas. C'est quelque chose qu'il faut construire. Donc l'homme, en l'occurrence, c'est quelque chose qui doit advenir. Pour reprendre l'exemple que je viens d'évoquer, l'homme algérien, l'Algérien, l'homme de meilleure qualité, c'est celui qu'il faut construire en tuant des Européens. Donc c'est celui qu'il faut construire vers le terrorisme. Donc il n'existe pas encore. Et c'est parce que cet homme-là est de meilleure qualité que ça justifie d'en abattre d'autres. La même logique existait dans Humanisme et Terreur.
Hein. L'idée,
c'était, Merleau-Ponty expliquait, de toute façon, la violence est un fait, c'est un donné. Donc à partir de là, il ne faut pas se demander est-ce qu'on est pour ou contre. La question ne se pose pas, on n'a pas le choix. La question, c'est comment distinguer entre une bonne et une mauvaise forme de violence. Et la bonne, comme il le disait, c'est celle qui se dépasse, et j'insiste, vers l'avenir humain. L'avenir. C'est toujours quelque chose à venir, en fait, dans les pensées dialectiques de l'histoire. Pour Camus, il y a une contradiction fondamentale là-dedans, c'est que ça consiste à sacrifier la chose même qu'on prétend faire advenir. C'est-à-dire que par incapacité à voir que l'homme est déjà là, que l'homme, ça n'est rien de plus que les hommes, les individus, les êtres de chair, on entre dans une logique de nihiliste, de négation absolue, où la révolte n'a aucune limite et se contredit elle-même.
Or Camus a deux adversaires, c'est le nihilisme et le cynisme, dit-il.
Oui, exactement. Le nihilisme, en l'occurrence, c'est quelque chose, c'est une tentation à laquelle il a lui-même cédé un temps. Je citais tout à l'heure un extrait des Carnets où il décrit justement cet homme absurde qui est l'homme nihiliste, qui ne croit plus en rien, qui est d'ailleurs une figure nietzschéenne hein, de ce point de vue-là, qui est la figure du dernier homme, celui qui a tout abattu mais qui n'a plus la force de rien construire. Il a eu cette tentation, mais là où justement il l'a dépassé, c'est à partir du moment où il a compris que malgré tout, il restait, une fois qu'on avait tout abattu, quelque chose de fondamental en l'homme qui est le désir justement de donner du sens. Rien n'a de sens, mais pourtant il faut que les choses en aient. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça serait intéressant de mettre en parallèle ce qu'on vient d'évoquer avec les lettres à un ami allemand. Puisque dans les lettres à un ami allemand, justement, on a l'opposition, la guerre des Nietzschéens, en fait. C'est un texte qui est un échange épistolaire fictif merveilleux, puisqu'on a Nietzsche contre Nietzsche. En l'occurrence, on a deux individus qui ont vécu à la même époque, qui ont vécu la même expérience, la même claque nihiliste, la même claque plutôt absurde, sauf que l'un a cédé au nihilisme et l'autre, Camus en l'occurrence, a refusé de céder à ses sirènes. Il y en a un justement qui part du principe que puisque Dieu n'existe pas, tout est permis, et qu'à partir de là, la seule chose qui demeure, c'est la force, le règne de la force, de la violence. C'est en l'occurrence l'ami allemand qui est un ami nazi. De l'autre côté, il y a Camus qui essaie justement de se dire « Nous sommes en guerre, la violence n'est pas une question, la non-violence plutôt n'est pas une option, donc je sais que je dois faire comme vous, potentiellement vous tuer, qu'est-ce qui me distingue de vous ? Qu'est-ce qui fait qu'encore, dans cette logique-là, je ne peux pas, je peux encore avoir la possibilité de ne pas vous ressembler ?» C'est un texte merveilleux de ce point de vue-là.
Merveilleux, oui. Donc les lettres à un ami allemand. Hein,
voilà, et la réponse en fait est dans le titre déjà, si j'ose dire, on ne fait jamais attention à ce titre, « Lettres à un ami allemand et pas un ami nazi ». C'est pas un hasard, je pense, d'ailleurs pour un ami encore. C'est parce que Camus explique déjà, rien qu'avec le titre, que la première différence qu'il y a entre lui et son interlocuteur, c'est que lui, même s'il est amené à tuer son interlocuteur, il le tuera pas au nom d'une idée, il le tuera pas au nom d'une idéologie, il le tuera pas comme une étiquette finalement, ou comme une abstraction, mais comme un être de chair. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne voit pas les autres, même quand c'est un ennemi, comme des silhouettes, mais bien comme des êtres de chair, automatiquement, on va être porté à, si j'ose dire, à mesurer la violence, la modérer, la maintenir dans des barrières, dans des frontières extrêmement délimitées. Ça, c'est ce que Camus explique dans L'homme révolté, c'est ce qu'il explique dans L'être un ami allemand. Et c'est quelque chose, en fait, que l'histoire confirmera, puisque il y a un très beau texte d'un historien qui s'appelle Jacques Semelin, qui s'intitule « Purifier et détruire », qui explique ça de manière extrêmement camusienne, en fait, sans s'en rendre compte, qui explique que tous les grands génocides de l'histoire ont été précédés par un conditionnement idéologique des populations, visant justement à faire en sorte qu'elles ne voient plus le groupe à abattre comme des êtres humains, mais comme des abstractions, ou comme des, en l'occurrence, des hors-humanités, des cafards, des vermines, etc., des barbares, pour prendre un concept lévi-straussien. Et donc, ça montre quelque chose qui est fondamental dans l'esprit d'Albert Camus, à savoir le fait que, parce qu'on revient à cette idée-là, on est un meurtrier parce qu'on pense mal. On ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier, on est un meurtrier parce qu'on pense mal.
C'est le sujet de son roman L'étranger, là, 1942, on revient un peu en arrière, et précisément celui-ci, hein, cet homme Meursault qui va tuer, presque par hasard, en tout cas sans le vouloir, un autre homme. Et toute la question est de savoir quel est le degré d'intentionnalité de ce geste. Quand la contingence conduit au meurtre, il est normal qu'il se fasse juger, mais on parlait de la révolte qu'induit l'absurde. Là, pour le coup, c'est plus qu'une révolte. Et pourtant, on a invité à lire la lettre à un ami allemand très peu connu, les carnets qui sont sublimes aussi. Il faut relire également L'étranger. Et surtout la fin, voici la dernière page de L'étranger. Avec tout ce que vous nous avez dit depuis le début de notre discussion, Marine Maison, on a tous les éléments pour bien comprendre ce texte. Faites attention à la référence à Nietzsche, hein, l'éternel retour, comment vouloir revivre une vie, y compris quand celle-ci a été douloureuse. Le oui qui dort, qui est toujours présent, même au cœur même de la révolte. Et puis cette dimension poétique, romanesque, qui était très cher à Camus, qu'on n'a pas assez évoqué. Camus disait, le roman, qu'est-ce que le roman, sinon cet univers où toute vie prend la forme d'un destin. Écoutez donc la dernière page de L'étranger de Camus.
J'ai retrouvé le calme. J'étais épuisée, je me suis jetée sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillée avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, les sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi je me suis sentie prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver, si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux, que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seule, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.
Quel texte, Marilyn Maizeau, cette dernière page de L'étranger de Camus. On peut lire l'itinéraire de Meursault, le personnage principal, comme étant une sorte de victoire sur la tentation de donner un sens au monde.
Exactement.
qui conduit à cette sérénité si troublante alors qu'il est sur son lit de mort, enfin la veille de son exécution.
Il faut dire que quand on est dans une cellule de prison avec la certitude que l'on va mourir, je pense que c'est un petit peu la meilleure façon de comprendre ce qu'est l'existence. Parce qu'au final, lorsqu'il est dans sa cellule de prison, il est coupé du monde. Et en étant coupé du monde, il est coupé non pas du monde au sens cosmique du terme, mais du monde au sens du monde social. Il est coupé de la société. Donc il a la possibilité de revivre dans sa cellule. Les pages qui précèdent sont finalement... sont composés de souvenirs de ce point de vue-là. Il revit l'intégralité de sa vie, l'intégralité des belles choses, des moments de jouissance qu'il a vécu. Et c'est à partir de là qu'il comprend qu'en fait, il n'a pas besoin de chercher un sens, en l'occurrence un sens social, un sens donné, un sens qui soit, si j'ose dire, acté par les autres, un sens artificiel aux choses, parce que tout était déjà là depuis le départ. C'est-à-dire que au moment où il a tiré 4 fois, après 4 coups, après avoir tiré un premier coup sur l'arabe sur la plage, disons qu'on a l'impression que son destin bascule, et c'est aussi l'impression qu'il a lui-même, puisqu'il dit que c'est comme 4 coups portés contre la porte du malheur. En réalité, il se rend compte en cette, je pense en tout cas, parce que c'est un texte très difficile et assez, je pense, indéchiffrable de ce point de vue-là. Il se rend compte qu'à ce moment-là, son destin n'a pas basculé au moment où il a tiré ses 4 coups. C'était paradoxalement une manière, au contraire, de l'embrasser. C'est pas une rupture au sens où il était heureux jusque-là et puis d'un seul coup, c'est le malheur. Il se rend compte qu'en réalité.
Malgré cela.
Voilà.
Il restait heureux.
C'est ça. En fait, il faut imaginer Meursault heureux.
Oui, c'est ça. Mais même jusqu'à dire, je me suis senti prêt à tout revivre.
Oui.
Là, pour le coup, c'est l'incarnation de l'éternel retour nietzschéen. Il est prêt. Il va mourir parce qu'on l'a accusé d'un meurtre à raison, même si ce meurtre n'était pas du tout volontaire. Et lui, il dit oui, je signe encore. Je peux tout recommencer.
C'est ça, c'est-à-dire que la figure de Meursault dans L'étranger, elle est intéressante à tellement d'égards. En l'occurrence, c'est aussi une figure, j'ai dit qu'elle était sisyphéenne, elle est aussi christique. C'est-à-dire que Meursault, c'est, entre guillemets, un peu celui qui meurt pour nos errements. C'est à la fois l'homme absurde qui paye pour tous, parce qu'après tout, son meurtre, c'est notre meurtre à tous. Hein. De ce point de vue-là, la scène du procès est fondamentale. On peut pas comprendre L'étranger sans bien lire la scène du procès. Dans la scène du procès de Meursault, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'est pas tellement jugé pour cet acte précis qui est son meurtre, auquel cas il faudrait une reconstruction, une reconstitution de la scène, on s'intéresserait au mobile, etc. En fait, non, ce que le procureur essaye de faire, je le cite, c'est de reconstruire l'âme criminelle de Meursault. Autrement dit, Meursault, on a compris que c'était un marginal, c'est vraiment l'étranger avec un grand E, c'est-à-dire l'inassimilable, celui qui peut pas entrer dans les clous, qui peut pas entrer dans le cadre de la société. Celui qui n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, celui qui a couché avec son amante juste après que sa mère soit morte, celui qui fréquente un homme de mauvaise morale, comme on dit. Voilà, celui-là, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas assimiler. Donc à partir de là, en fait, pour pouvoir justifier sa mise à mort, il faut vraiment non pas le juger pour son crime, mais l'identifier à son crime. En faire le criminel, en fait. Il faut l'essentialiser comme criminel. Mais en réalité, de ce point de vue-là... c'est un petit peu une façon qu'a la société de faire son propre procès. Il y a une société nihiliste, une société qui a vécu l'absurde, justement, qui a cédé aux sirènes du nihilisme, qui du coup a justifié le pire, puisqu'on est quand même en 42 au moment de la publication de L'étranger. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas un hasard. Et ça sera pas la dernière fois que la société cédera aux sirènes du nihilisme, puisque d'autres guerres suivront, la guerre froide, la guerre d'Algérie, etc. En fait, Meursault, c'est vraiment celui qui incarne ça. Le moment où la société elle-même prend conscience de sa propre dérive et essaye, par une sorte de rituel sacrificiel d'un bouc émissaire, d'expier ses propres fautes.
Oui, il a même jusqu'à dire qu'il espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs le jour de son exécution et qu'ils l'accueilleront avec des cris de haine.
Oui.
Pourquoi de la haine ?
Bah, en l'occurrence, c'est toujours un passage, j'avoue, qui m'a interloqué. Mais de ce point de vue-là, c'est juste une interprétation.
C'est à vous que je pose la question.
D'ailleurs, je suis même pas sûre que Camus lui-même, il ait vraiment arrêté ça de manière très nette. J'ai lu les carnets, j'ai cherché la clé d'interprétation de cette phrase, je l'ai pas trouvée. Donc c'est peut-être une raison. Je pense qu'en réalité, ça se rattache justement à la fonction de la mise à mort de Meursault. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une scène quasi christique où Meursault expie les fautes d'une société nihiliste, il peut pas être acclamé, en fait. Il peut pas être accueilli avec des cris d'amour. C'est forcément des cris de haine, puisque la haine est un sentiment qui est pure négation. Donc, c'est dans la parfaite cohérence de tout ce qui se produit, dans ce roman. Et c'est ce qui fait la beauté, en fait, de cette fin de roman. C'est que dans un univers qui est nihiliste, jusqu'au bout, jusque dans l'exécution, jusque dans ce meurtre sacrificiel, on a un personnage qui est l'antithèse de ça. Et de ce point de vue-là, c'est, si j'ose dire, une forme de promesse de renouveau, en fait, Meursault. Si, au milieu du nihilisme, d'un nihilisme pur, d'un nihilisme omniprésent, on a un seul individu qui est capable, justement, d'aller à contre-courant, alors il y a la possibilité, justement, d'imaginer une sortie. Or, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que l'œuvre de Camus est intégralement construite de ce point de vue-là. Camus écrit une très belle chose dans l'un des textes qui compose les chroniques algériennes, qui sont des textes pas faciles, parce que Camus lui-même déchiré lors du conflit algérien. Il dit « on n'écrit pas pour dire que tout est fichu ». Or, son œuvre, en fait, on pourrait la résumer à ça. On n'écrit pas pour dire que tout est fichu. C'est-à-dire que même quand il décrit le nihilisme, même dans L'Homme révolté, où il explique toutes les manières dont la révolte a pu être corrompue dans l'histoire, sous diverses modalités, il explique toujours à la fois voilà comment on est arrivé là, et surtout comment on peut en sortir. C'est pas juste de la complaisance dans la description de l'horreur, c'est toujours la possibilité d'une porte de sortie.
Nommer le désespoir, c'est le dépasser, c'est aussi Camus qui le dit. Trois mots clés de la pensée de Camus, le oui qui nous a accompagnés au cours de cette émission, le soleil et maman, ça donne ça.
Je suis resté qu'un enfant, trop grandi, trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires. Et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant, je lui soleil dans ma mémoire, je lui soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un père Noël pour Cendrillon.
Merci beaucoup Marilyn Maizeau d'être venue nous parler de Camus aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est un plaisir de vous écouter en parler. Lisez, chers auditeurs, tout Camus. C'est facile à lire. On trouve les œuvres complètes en Quarto Gallimard. Lisez Noces, lisez Les Lettres à un ami allemand. Relisez L'Étranger, c'est celui qu'on étudie le plus généralement au lycée. Hein,
le plus mal.
Voilà, peut-être le plus mal, ça je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Les profs de littérature française vous écriront. En tout cas, lisez-le avec plaisir et sans modération. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Bosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
Alors comme tous les jours, vous partez d'une actualité en lien avec la philosophie et je vois à côté de vous, devant vous, sur la table, un ouvrage qui m'est très cher et que j'aime beaucoup. Ce sont les œuvres de Fernandolini, non ?
Exactement Adèle, les œuvres de Fernandolini qui viennent de paraître aux éditions de l'Arachnéen. Alors je le rappelle, figure incontournable dans le champ de l'éducation spécialisée, reconnue pour ses recherches auprès d'enfants autistes notamment et sa langue si particulière. Je rappelle qu'une émission lui avait été d'ailleurs consacrée ici au début de l'année, enfin en septembre.
Oui.
Eh bien la publication en un livre de toutes les œuvres de Deligny, c'est quand même presque 2000 pages, eh bien c'est un événement. Et c'est d'autant plus un événement que pour un penseur qui n'a cessé de questionner la langue et celui qui la parle, la publication de ses œuvres est bien l'occasion de se demander à qui doit-on ses œuvres, c'est-à-dire et en général à qui doit-on décrire ou de parler ou mieux qui parle et à qui et de quoi quand on parle. Question essentielle en cette actualité autour de l'écriture inclusive et du lien entre nous et les mots.
Voilà, c'est gros. Oh, merde.
Ici Deligny, cette espèce de bonhomme. C'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne ?
Et Deligny d'ajouter, pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un la prend ? Et cette interrogation, il la pose dès l'ouverture du documentaire qu'il a réalisé entre 62 et 71, Le moindre geste, retracé aussi ici dans ses œuvres. Et cette interrogation, elle est essentielle, on pourrait même dire qu'elle parcourt l'ensemble de ses œuvres, écrites ou filmées, qu'elle appose la langue sur le papier ou la mette en scène. Et alors, comment y répondre ? Comment savoir de qui nous vient la parole ? Et comment être sûr qu'elle devienne la nôtre ? Au défaut du langage, langage non verbal, ce sont des titres explicites de deux de ces textes publiés ici, mais aussi à travers des contes, des poèmes, des récits et des scénarios, Deligny met à l'épreuve la langue, ses propriétés et sa propriété. Faut-il forcément qu'elle prenne une forme fixe, suivant des règles de grammaire et d'orthographe ? Et surtout, est-elle vraiment un lieu dont on devient propriétaire que l'on possède ?
Voilà ce qu'elle en dit, la psychiatrie de ces enfants-là, qui sont nombreux, et de lui-là en particulier, pour ne pas dire en personne. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre, qui s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Il avait donc 12 ans en 1967, invivable, c'est vrai, des voisins, à cause de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qui peut se dire, et puis... rien à faire. Ils l'ont bien dit. Incurable. Insupportable. Invivable.
Si avec Deligny, on peut donc se demander jusqu'où, pourquoi et comment la langue est une question de propriété, c'est que la langue elle-même est devenue un territoire déterminé par des enjeux politiques, limités, figés par certains, par certaines institutions comme la psychiatrie, qui s'en sont fait les propriétaires. Mais alors comment transgresser ces limites ? Comment vagabonder plutôt que se fixer et rendre ce territoire mouvant, le déplacer, le tourner ? Dans ce gamin-là, film réalisé par Renaud Victor en 1975, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre, avec Fernand Deligny, l'enjeu est de créer un autre lieu, justement. C'est le hameau des Cévennes qui prend la forme d'un lieu de vie et de sens et non celle d'un territoire institutionnel, réglé, énoncé. Et c'est bien ce que les images de ce gamin, Jean-Marie, nous montrent. Tout comme les textes de Deligny, le lieu ne s'impose pas à la langue, mais c'est la langue qui donne vie au lieu et qui dévoile ses sens cachés. Ce qu'a voulu faire Deligny.
Ce mot d'asile qui est odieux, par derrière, il y a le droit d'asile. Et que c'est pas rien. Et au fond, je m'aperçois, parce que je n'ai pas fait tout ça exprès, que c'est un peu cette recherche, comme on dit, que je mène, c'est qu'en est-il, qu'en serait-il d'un asile humain ?
Revenir à un asile humain au sens premier mais caché de l'asile, c'est bien ce qu'a fait Deligny même malgré lui, sur le terrain et dans ses textes qui sont comme des refuges de sens où l'on préfère se taire et ouvrir grand ses oreilles.
Merci beaucoup Géraldine d'avoir parlé de Fernand Deligny aujourd'hui. On peut se procurer les œuvres complètes donc ?
Oui, aux éditions de l'Arachnéen, c'est un ouvrage magnifique, c'est donc 2000 pages. Il y a des manuscrits, il y a des extraits de scénarios, des poèmes, c'est incroyable. Il faut absolument le lire.
Et voilà.
Et des très bonnes introductions. Je signale que c'est une édition établie et présentée par Sandra Alvarez de Toledo.
Les 2000 pages de Deligny plus les 600 et quelques pages de la correspondance Camus Cazares, ça fait de la bonne lecture pour ce week-end. Merci Géraldine. Et merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anne Brissier qui était à la lecture des textes, Élise Leu à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Je recevrai la philosophe Marianne Chaillant qui viendra vous parler de son dernier livre. Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. On y parlera notamment de Walt Disney. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.